Joe Dassin's story by his son, Julian Dassin. All Joe Dassin hits live.
Les Champs-Élysées, à toi, dans les yeux d'Émilie. Et si tu n'existais pas, si tu t'appelles Mélancolie, l'Amérique, l'été indien.
Joe Dassin's story by Julian Dassin, now on tour.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu.
All dates on www.juliandassin.com. Joe Dassin's story by his son, Julian Dassin.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
CUT 89,5 FM et Tolalito Music ont le plaisir de vous présenter la sortie de Mboko, le nouveau single du collectif montréalais Exo Project, annonçant la venue de leur prochain album Red Flags and Roses. Avec des paroles sincères et des mélodies entraînantes, Mboko célèbre l'essence d'une femme extraordinaire, une bénédiction à chérir. Les artistes expriment ici un amour charnel et sincère, porté par des rythmes afro-envoûtants. La musique est réalisée par Rudy H. Écoutez Exo Project sur Spotify et iTunes. Mboko, le nouveau single du collectif montréalais Exo Project. À surveiller, mesdames, messieurs, en exclusivité sur popourishow.com et tolalitomusic.com. Le Exo Project est un collectif d'artistes montréalais fondé par Eke Sounds et Rudy H, animé par une vision commune de mélanger la musique afro avec les rythmes vibrants des Caraïbes. Une présentation de Tolalito Music et Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, la radio des découvertes des musiques du monde.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Émission spéciale et en public, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio.
Émission spéciale et en public, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio.
Émission spéciale et en public, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio.
Émission spéciale et en public, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio.
Émission spéciale et en public, atelier, journée portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio dans toutes les régions de France.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Du 26 mai au 1er juin, le son de votre ville, The Sound of Your City, a besoin de vous. Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, l'émission qui vous accompagne depuis plus de 38 ans. Potpourri Show, la francophonie dans toute sa diversité. Toutes les littératures et les musiques du monde sur votre fréquence. Potpourri Show, CUT FM, en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde. Potpourri Show, des perspectives d'ici et d'ailleurs. Du 26 mai au 1er juin, je vous invite, madame, monsieur, à faire un don en visitant notre site web cut.fm et cliquez sur Donate et faites un don à Potpourri Show. Maintenant, merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien à la liberté d'expression, la tolérance et la diversité des peuples.
Sur l'affiche de cette année, exposée sur le palais des festivals, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, dans l'inoubliable, un homme et une femme, Palme d'Or 1966. Le 78e Festival de Cannes, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma mondial, ouvre ses portes tout à l'heure sur la Croisette. En choisissant ce film pour décor, l'équipe du festival a dit vouloir resserrer les corps, les cœurs et les âmes.
C'est toujours une appréhension énorme de ne pas devenir à Cannes. Mais on est vraiment récompensé en fait. J'ai envie de le refaire.
I am pinching myself. This is a marvel.
There's no place like here.
It's always evolving and changing.
You get all this sudden attention and you're part of this like crazy experience.
C'est comme un manège qui s'arrête jamais.
It was a dream come true for our film to be selected in the main competition in Cannes.
It's impossible to find words to tell you how I feel.
Du 13 au 24 à mai 2025, un nos médias partenaires s'installe sur la Croisette pour le Festival de Cannes. MeToo, Gaza et l'Ukraine au menu des débats. Avec son cortège de stars, à commencer par Robert De Niro, le 78e Festival de Cannes a débuté avec la comédie musicale « Partir un jour » d'Amélie Bonin et la rayonnante chanteuse Mylène Farmer. Cette année, le festival se tient dans un contexte de monde déchiré par les conflits de l'Ukraine à Gaza, au cœur d'une tribune signée par des dizaines de personnalités du cinéma. Du 13 au 24 mai, CUTFM vous donne rendez-vous en compagnie avec ses radios partenaires sur la Croisette. Suivez-nous en direct sur notre page Facebook ou Instagram. Plus d'infos sur popourishow.com. Cette année encore, et ce malgré les tarifs douaniers de Trump imposés sur l'industrie du cinéma au Canada, plus de 200 professionnels québécois et canadiens seront sur place afin de participer à ce prestigieux événement international. Festival de Cannes 2025 sur CUT 89,5 FM accueillera encore cette année tout le gratin du cinéma mondial. En partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde et France Inter.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est pas ce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Pourrichot, une émission présentée par Eric Kader. Mise en onde, DJ Devera et les techniciens de Hart House, Université de Toronto. En partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde et France Inter.
France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large en direct du Festival de Cannes avec Louise Aymon, Afsia Herzi, Sophie Le Tourneur, Masha Chelinski et Laura Vandel. Et encore Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct du Festival de Cannes 78e du nom. C'est toujours un sujet dès l'annonce de sa sélection. Combien de réalisatrices dans la compétition cannoise? Cette année, elles sont 6, un record sur 22 candidats et candidates à la Palme d'Or. On est loin de la parité, mais ça reflète malheureusement la proportion de films qu'on laisse des femmes réaliser en France et c'est encore pire ailleurs. Et pourtant, ce sont bien des regards féminins qui nous ont marqué toutes sélections confondues dans cette première semaine de festival et leurs paroles que nous avions envie d'entendre ce samedi. Côté compétition, on vous propose donc tout à l'heure de rencontrer une grande découverte de cette année, l'Allemande Masha Chelinski et son Sound of Falling, qui dans une ferme saxonne et sur 100 ans entrecroise avec brio les destins de 4 jeunes filles. Toujours en compétition, là ce n'est pas une découverte mais une confirmation. Avec son 3e film comme réalisatrice, l'actrice Afsia Herzi s'affirme comme grande cinéaste avec La Petite Dernière, un subtil récit d'émancipation qui révèle une grande actrice, Nadia Mélitine. Confirmation encore du talent de la Belge Laura Vandel qui, après la cour de récréation d'Un Monde, nous plonge dans le service pédiatrique survolté d'un hôpital bruxellois. Ça s'appelle L'Intérêt d'Adam et ça a ouvert la semaine de la critique. Nous ne serions pas complets évidemment dans notre exploration des diverses sélections cannoises sans parler de L'Acide, ouverte elle par L'Aventura de la toujours surprenante Sophie Le Tourneur, et La Quinzaine des cinéastes où on a découvert une nouvelle venue, Louise Aymon. Son premier film, L'Englouti, nous a submergés. Elles sont toutes deux en direct dans Plan Large et on les en remercie. En fin d'émission, Charlotte Garçon explorera une dernière section méconnue mais pas avare de grands films, loin de là, Cannes classique. Elle y a déniché un documentaire sur un grand cinéaste qui fit en son temps les belles heures de la croisette, le Suédois Bo Widerberg. Mais dans l'immédiat, même s'il est 14h et bientôt 3 minutes, tout commence par un petit déjeuner et quelques épanchements en famille.
Alors, je parle. Une tartine, s'il te plaît.
Quoi?
Quoi?
Une tartine.
Merci.
Tu pleures?
Fatiguée.
Mais tu pleures?
Non, mais c'est pas, je suis fatiguée.
Parfait.
Quelqu'un veut des autres cafés, quelque chose?
Ah.
Ouais.
On n'a qu'à partir. Hein. De toute façon, les limites, c'est-il, il n'y a rien à voir. Si on doit rester longtemps sur quelque part, autant que ce ne soit pas dans un endroit aussi petit.
Des vacances comme ça, dans le stress et tout. On peut regarder qu'à rentrer à Paris.
Non, d'abord, on va à la plage.
C'est super ici!
Bonjour, Sophie Le Tourneur.
Bonjour Antoine.
Je ne sais pas quel est votre état de fatigue après quelques jours de festival. C'est pas la première fois en tout cas, et loin de là, que vous venez visiter notre plan large. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, pour Voyages en Italie, voyage au pluriel, où vous exploriez le lien conjugal, on dira, ce lien à la fois profond et fragile sur des routes siciliennes, comme par exemple Ingrid Bergman et George Sanders dans le film presque homonyme de Roberto Rossellini. Il y avait déjà des enfants, mais ils étaient restés à la maison à l'époque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de refaire le voyage? mais cette fois avec les enfants, et de partir à l'Aventura, même si cette fois on est loin de Michelangelo Antonioni, quoique.
Bah, qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, c'est vrai que l'un répond à l'autre quelque part, parce que ce premier voyage, c'était pour fuir, ou en tout cas retrouver de l'espace qui manque dans des vacances avec des enfants, en fait. Donc, on peut le voir dans un ordre ou dans l'autre. Enfin, en tout cas, c'est l'œuf et la poule, quoi, en gros. Enfin, voilà, c'est.
Alors, la nouveauté quand même de ce film, c'est qu'il dévoile une bonne partie de votre méthode de travail, qui consiste, on l'a déjà souvent raconté ici, mais on l'a redit, et qui consiste à enregistrer des moments de votre vie, des séances d'improvisation entre amis, et puis de monter, ensuite de faire un montage sonore qui va donner un scénario. Pourquoi est-ce que vous vouliez nous faire rentrer dans votre cuisine cette fois-ci?
Disons que déjà dans le voyage en Italie, il y avait aussi, c'était plus discret bien sûr, mais je crois que je disais, on va s'enregistrer pour écrire le scénario. Donc il y avait déjà cette idée-là. Là, c'est vrai que je me suis posé aussi la question de est-ce qu'il faut autant appuyer sur ça enregistre, etc. Est-ce qu'il fallait commencer le film comme ça? Et en fait, je me dis, je pense que c'est mon film le plus radical, où je vais vraiment au cœur de mes obsessions, de ce qui m'intéresse. Enfin, j'ai l'impression que tout converge un peu vers ce film. Donc, autant que ça commence par ça enregistre, parce que finalement, ça a été la base un peu de tout mon travail. Même quand je faisais de la vidéo ou des installations, c'était déjà des enregistrements. Donc, il doit y avoir un truc avec ça quand même.
Ça donne tout de même une structure très très forte, originale, très étrange au film. C'est comme s'il se rembobinait sans cesse, ou si on prenait une métaphore couturière, ça va bien avec le montage. C'est comme s'il se ravaudait ou qu'il se reprisait. C'est-à-dire qu'on régulièrement on revient en arrière. Les personnages s'enregistrent racontant ce qu'ils ont fait quelques jours auparavant, et puis la même scène, elle va être racontée plus tard dans le film. Leur version sur ce qui s'est passé diverge souvent. Évidemment, c'est le plaisir qu'on peut avoir. On est à la fois dans le « ça est » et dans le « ça a été ». On est toujours dans deux temporalités.
Oui, c'est un film qui est ludique aussi. C'est-à-dire que c'était ça aussi qui m'intéressait. C'est de... Enfin, moi, j'aime bien, en fait, quand il y a un challenge, quoi, de forme. Et là, l'idée, c'était vraiment faire un film où il se passe très, très peu de choses, enfin, des choses complètement anodines, mais de faire tenir cette forme et ce récit par une autre façon de traiter la temporalité, de créer en fait un autre temps, quoi, quelque part, et d'être dans quelque chose de ludique et de jouer aussi avec ce truc de mais où est-ce qu'on d'être perdu dans l'espace, d'être perdu dans le temps, d'accepter en fait d'être perdu dans l'espace et dans le temps, puis par moment de se dire ah oui, enfin pour l'accepter, pour le supporter, il faut quand même donner des petits indices de temps en temps. Donc en fait, c'était tout ce jeu là moi qui m'a vachement intéressé et qui était construit en fait dès l'écriture du film.
Oui, parce que vous n'êtes pas complètement parti à l'aventure comme vos personnages qui partent avec un guide dont on ne donnera pas la marque dans la poche, mais que tout le monde reconnaîtra, et qui décide au fur et à mesure ce qui se fait. Là, tout était quand même très très écrit et préparé.
Ah oui, il n'y a aucune impro. Ben on a des oreillettes en fait, tous les trois, Philippe, moi et Bérénice. Bon, le petit de 3 ans n'a pas d'oreillettes, hein, mais donc oui, il y avait vraiment aucune marge d'impro. Puis de toute façon, on était très serré, ça a été un tournage assez court, donc il fallait abattre le travail et être efficace.
Le petit qui n'a pas d'oreillette joue le rôle de Raoul. Ouais. Il s'appelle Esteban Melero, et on a précisément le sentiment que c'est il est là presque pour donner de l'inattendu, de l'incontrôlable, quelque chose, des événements avec lesquels les autres vont être obligés de composer, parce que c'est l'élément le plus dingo du film. C'est comme ça aussi que vous l'avez mis sur ce scénario très écrit. Parce que j'imagine qu'il fait pas exactement ce que vous lui demandez quand même.
Ça aussi, ça c'était un enjeu pour moi de de trouver des dispositifs adéquats pour quand même qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, quoi. Enfin, sans le diriger, mais c'était une autre façon de le diriger, c'est-à-dire de trouver des idées pour le mettre dans une situation où il réagirait de la même façon, où sa mère est habillée comme moi, où on fait des plans serrés pour jouer après avec le montage, où on fait ses plans en premier. Comme ça, après, il peut sortir de la scène et nous, on peut travailler. Et comme on sait ce qu'il a fait, on peut aussi penser au raccord avec les plans de moi. Par exemple, s'il se met sur sa mère, comme ça, sur ses genoux, d'un geste brusque. Donc, pour faire le raccord, moi, il faut que je fasse exactement au même moment du dialogue le même truc. Enfin, voilà. Donc, c'était passionnant à faire. Moi, j'adore. De toute façon, dès qu'il faut trouver un peu, inventer des systèmes, des dispositifs... ça me plaît. Ce serait pas drôle de juste dire le texte comme ça.
Alors, il introduit aussi un élément assez peu vu au cinéma, qui se voudrait un peu propre sur lui. C'est la question du caca. C'est un petit garçon qui fait caca où il peut, quand il peut, quand il veut aussi, parfois. Et ça revient plusieurs fois dans le film, cette question-là. Alors, seuls les parents ayant eu ou ayant actuellement des enfants en bas âge comprennent à quel point, effectivement, ça occupe toute leur journée. Mais c'est quelque chose qui est assez marquant dans votre film.
Oui, bah c'est vrai que c'est aussi le sujet, hein, c'est enfin pas le caca je veux dire, mais les passages, les transitions pendant l'été, c'est quoi les grandes vacances finalement, bah surtout quand on est enfant, on a l'impression qu'on sera pas le même avant et après. C'est des moments de transition et même pour ce couple, c'est un moment de transition parce que c'est le moment où ils laissent de côté peut-être leur rupture à venir et se dire voilà, c'est les dernières vacances et on va pas s'engueuler, mais voilà, on sent qu'ils veulent même pas sauver quoi que ce soit. Donc pour revenir au caca, donc pour lui, c'est l'été juste avant l'entrée en maternelle.
Et, où il faut être propre.
Voilà, donc c'est le moment où il y a des accidents, parce qu'on enlève la couche en gros. Mais c'est pas seulement ça, parce que pour moi, c'était aussi, c'est un film sur ce qu'on partage en famille et les mots qu'on partage en famille. Mais c'est pas. C'est qu'est-ce qu'on va trouver à se dire. Enfin, en fait, c'est pas le fond de ce qu'on se dit qui est intéressant. C'est déjà juste d'échanger. Et pour moi, j'ai essayé de construire un truc où même son rapport au langage, au petit, en fait, il évolue pendant le film. Et à la fin, il va enfin avoir l'impression qu'il a quelque chose à dire dans cette conversation et trouver cette place aussi d'un enfant qui grandit, qui est plus un bébé et qui maîtrise en plus son sphincter. Donc voilà.
Alors, je ne sais pas si c'est un symbole d'une séparation à venir, mais il y a un très beau plan qui est comme un cadeau que vous faites à Philippe Catherine, qui joue le père de famille, le mari dans le film, comme dans le précédent. Il est seul, il marche dans des rues, on imagine que c'est Cagliari, où vous avez tourné, une grande ville italienne. En tout cas, il est suivi en travelling par une voiture, et c'est un très long et très beau plan, qui pour le coup est complètement muet. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre ce plan-là dans votre film ?
Bah, c'était un plan qui était écrit dès le début, en fait. C'était écrit dès le début. C'est le seul travelling du film, parce que le film est essentiellement en plan fixe, plan serré. Et c'est le moment, parce que c'est un film sur le temps, enfin bien sûr le temps qui passe, mais aussi le temps et l'espace qu'on a pour soi. Et c'est vrai qu'on manque cruellement d'espace et de temps. Enfin, les parents en vacances, voilà, on n'a plus. Et on peut l'accepter. Moi, mon personnage, je pense, l'accepte un peu plus. Mais lui, dès qu'il peut, il pense qu'il peut encore retrouver le mec tout seul qu'il était. Et donc, ce plan, c'est ça. C'est en temps réel le moment qu'il a entre là où il a garé la bagnole, parce qu'évidemment, il essaye de se débarrasser de nous dès qu'il peut. Donc, il nous dépose à des endroits, puis il dit « je vais garer la bagnole hein, » par altruisme. Mais c'est juste pour être peinard aussi, 10 minutes, se fumer une clope. Donc, voilà. Donc, le plan, je crois, dure 3 minutes 20 et c'est le temps qu'il a eu pour lui, quoi.
C'est le temps pour lui, en tout cas. Le duo se reforme tout de même à la fin, parce que tournant avec Philippe Catherine, vous ne pouviez pas, évidemment, vous priver d'un petit plaisir.
Bon, c'est toi qui commence ou c'est moi ?
C'est la musique qui nous fait vivre tous deux.
que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et on s'en va. À nous, là. Je mène avec toi l'aventura, c'est dormir chaque nuit dans tes bras. L'aventura.
Merci Sophie Le Tourneur. L'aventura, vous ne tarderez pas à pouvoir la vivre et le voir. Le film sort en salle le 2 juillet. Après la Sardaigne, on remonte un peu plus au nord. Il fait un peu plus froid. On est dans un hameau reculé des Hautes-Alpes et ça commence par une petite leçon de géographie.
C'est comme si on avait étalé la planète Terre sur un grand papier pour pouvoir la voir tout entière. En bleu, c'est la mer. Et le reste, ce sont les pays. Et nous, regardez, nous sommes ici.
Mais c'est tout petit, là.
C'est tout petit.
Où est la Prusse?
Tu connais la Prusse? Ici.
C'est la Californie. La Californie, le pays du caca.
Non. Véloti, tu en sais des choses.
Et l'Algérie?
L'Algérie est là.
Elle sort d'où cette Aimée, c'est son prénom, mais sans doute qu'elle voudrait bien l'être, Aimée, précisément. Jeune institutrice envoyée en plein hiver apporter un peu d'éducation républicaine aux rares enfants laissés par leur mère, c'est qu'ils ne sont pas partis en Algérie, mais elles sont parties faire les bonnes dans la vallée. Comment est-ce qu'elle vous est apparue, cette Aimée, Louise Aymon?
En fait, il y a une vraie Aimée. Qui est la grande tante de ma mère. En fait, la famille de ma mère vient des Alpes et donc je suis issue d'une lignée d'institutrices et d'instituteurs laïques et républicains qui du coup pour leur premier poste étaient envoyés dès la fin du 19e siècle dans là où personne ne voulait aller en fait dans les petits villages pour dans des écoles dans des huis clos comme ça en plein hiver. Donc en fait, l'histoire m'est venue d'un héritage familial et de récits qu'on m'a transmis à l'oral et à l'écrit. Et donc il y a cette vraie Aimée qui avait écrit un récit en 1922, elle, un hiver aux étages, un petit village des Alpes, où elle raconte, en fait c'est un récit anthropologique pour la revue de géographie alpine, où elle raconte ses observations. Donc j'ai tiré de ces documents et d'autres des images, en fait, des images fortes qui m'ont inspiré le film.
Pourquoi ça se passe en 1899? Est-ce que c'est parce que le récit se passait en 1899 ou c'est quand même, et c'est abordé dans le film, c'est quand même l'hiver où on passe dans un nouveau siècle? Alors on ne sait pas si on passe de l'obscurité aux lumières ou si c'est pas plutôt le contraire qui va arriver. C'était ce moment-là que vous vouliez raconter?
Oui, ça c'est pour le scénario parce que l'école obligatoire publique c'est 1882. Mais je trouvais plus intéressant d'être dans un basculement en fait symbolique au siècle nouveau. Le centre du film, c'est la fête du Nouvel An. On a une longue nuit où les protagonistes fêtent ce basculement et ça me permettait aussi de dans la narration même d'avoir un basculement entre le monde ancien et le monde nouveau et le basculement vers l'inconnu aussi.
Mais le monde nouveau, on le voit sur ce planisphère précisément dont on a entendu parler dans cet extrait. C'est comme si depuis ce petit hameau très reculé dans les montagnes, vous embrassiez quand même ce qui se passe dans le monde à ce moment-là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y en a qui partent en Algérie? C'est parce qu'il y a des paysans qui savent très bien cultiver les terres arides et on les envoie là-bas. Mais dans le mouvement inverse, on a cette sorte de colonisation intérieure qui est l'alphabet des masses qui consiste notamment à éradiquer les langues vernaculaires, ce qu'on appelle le patois, avec un certain mépris. Vous vouliez raconter aussi ce moment politique?
Oui, en fait, c'était intéressant de déjà comme c'est un huis clos loin du monde de créer du hors-champ. Et ce hors-champ, je l'ai trouvé par l'histoire. En fait, je suis partie de ma propre ignorance. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de la colonisation de l'Algérie, ben, j'avais des images de l'indépendance, du retour des pieds noirs, mais je ne savais pas qui était parti, je ne savais même pas quand. Et voilà, et donc j'ai fait des recherches et j'étais fascinée de me dire, en fait, c'est des paysans, enfin, c'est pas que eux, mais moi, dans mon histoire, il y a eu des paysans haut alpins qui vivaient sous la neige, qui partaient dans les montagnes de Kabylie. Ça me paraissait dingue et ça m'évoquait, voilà, toutes les l'autre mythologie qu'on connaît, celle de l'Eldorado américain, et c'est à la même époque. Et donc ça, voilà, ça m'a fascinée. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi un espèce de parallèle souterrain dans le film avec ce moment d'unification de la nation. En fait, il y a à la fois des valeurs qui sont sublime, quoi, le savoir pour tous, l'émancipation de l'homme par l'homme, l'égalité, mais c'est aussi, ça ne se fait pas sans une certaine, malgré toute la bonne volonté, on le voit chez mon personnage, sans une forme de brutalité, parce que c'est une quête civilisatrice, et donc, en effet, l'éradication des patois, on est revenu dessus depuis. Mais voilà, j'avais envie, pour moi, le cinéma, c'est le lieu possible de l'ambiguïté, de pas dire des choses fermées. Et donc voilà, c'était s'amuser dans la mise en scène avec toutes ces thématiques.
Alors, ce que vous appelez ambiguïté, on pourrait l'appeler vase communicant, puisqu'elle est censée apporter les lumières dans l'obscurité. Et il y a quelque chose de très profond, de presque ancestral ou tellurique, qui semble presque s'emparer d'elle. Le hameau s'appelle Soudain, si je ne me trompe pas. Et ben, le Soudain, c'est un peu le maître mot du film. C'est-à-dire que Soudain, il y a des hommes. Soudain, ils sont presque nus. Soudain, ils sont éclairés par le soleil devant elle. Et d'autres événements, soudain, vont avoir lieu, comme ça, nous aimons.
Oui, c'est vrai, c'est un film qui travaille autour du surgissement. C'est vrai que comme c'est une histoire de contraste, après je l'ai pas décidé, mais voilà, je viens du documentaire et aussi on se saisit du réel et je travaille de cette manière-là.
Dès que j'ai vu la photo de Nadia Militi qui incarne Fatima, j'ai tout de suite été frappée par son regard. Et ce qu'elle dégageait, juste voilà, à travers la photo, et elle m'a fait penser un peu à la Joconde, un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai réadapté justement ce dialogue. J'avais envie qu'un autre personnage lui dise indirectement que voilà, elle ressemble à la Joconde.
Ce qui est très fort chez Nadia Meliti, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est comme ça ou c'est parce que vous l'avez dirigée comme ça, mais c'est quelqu'un qui est à la fois très physique et très dans la retenue. Et exactement. C'est dans cette tension-là que vous la filmez.
Alors moi, ce qui m'a plu chez elle, c'est que elle fait des études de sport. Dans la vie, elle est très sportive. Elle fait du foot et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, surtout quand je lui ai demandé de me montrer des vidéos d'elle faisant du foot. Je trouvais ça super. Et du coup, je l'ai intégrée au personnage dans le livre. Le foot n'existe pas et son côté sportif m'a beaucoup plu parce que pour le personnage, il fallait vraiment quelqu'un qui ait un mental quand même assez fort, qui soit aussi forte physiquement, c'est important pour moi, qui est ce corps. Et en tant que sportive, elle avait pas de problème avec ça. Ça, c'était cool.
Alors, c'est aussi avec beaucoup de subtilité que vous filmez des larmes. J'ai trouvé ça très surprenant parce que le film n'est pas lacrymal du tout. Il n'est pas là pour nous faire pleurer avec des émotions un peu fabriquées. Mais on sent que voilà, filmer ne serait-ce qu'une larme qui coule sur une joue... C'est quelque chose qui vous passionne presque.
Oui, la subtilité et surtout, c'est surtout les émotions. Essayer de filmer les émotions avec subtilité. La subtilité, c'est le mot d'ordre, parce que je pars du principe où, enfin, déjà moi j'aime ça, j'aime la subtilité, pour que le spectateur puisse interpréter ce qu'il souhaite. Et surtout, on voit tout à l'image. Donc voilà, en faire le moins possible, ressentir, vivre, sans essayer de fabriquer.
Alors, la subtilité, elle est aussi dans la manière dont vous représentez beaucoup de choses dans ce film. Ça peut être la manière dont vous représentez la famille, la manière dont aussi vous sortez un peu des récits d'émancipation de jeunes filles de banlieue qu'on a vu, beaucoup vu, avec des parents très méchants, des grands frères surprotecteurs.
Oui, des clichés qui existent.
Tous ces clichés. Oui. Et le film travaille contre ça, il me semble.
Bah, toujours, même sur mon précédent Bonne Mère, qui parlait d'une famille vivant dans les quartiers nord de Marseille. Les clichés existent, oui, mais l'inverse aussi. Et moi, j'ai grandi avec l'inverse. Et J'avais pas envie de montrer une image négative de la cité telle qu'on la connaît, telle qu'elle est souvent représentée au cinéma. J'avais avant tout envie de montrer une famille aimante et bienveillante.
Beaucoup de subtilité aussi dans cette manière dont vous représentez ce qui pourrait être une homophobie ordinaire, mais aussi du mépris de classe, mais aussi un racisme ordinaire, qui vous montrez tellement comme intégré, comme culturel, que vous montrez que voilà, ça vient pas de gens méchants, ça vient d'une société.
Ça vient d'une société, ça vient d'une éducation aussi, et même de l'inconnu un petit peu. Quand on connaît pas un petit peu le milieu de l'autre, on a peut-être parfois tendance à juger, à avoir des préjugés... Mais ça, ça fait partie du quotidien, oui. Ouais. C'est vrai, parfois, c'est du, entre parenthèses, du racisme indirect.
Et vous avez aussi l'honnêteté pour un milieu que vous ne connaissiez peut-être pas forcément, qui est le milieu lesbien parisien, par exemple, de vous renseigner, d'aller y voir.
Bien sûr, c'est très important pour moi. Enfin, je ne pouvais pas développer déjà le scénario sans m'être imprégné de ce milieu, sans être allé dans le milieu, rencontrer... des jeunes femmes lesbiennes, des jeunes garçons, enfin, c'est très important pour moi de recueillir un maximum de témoignages et de découvrir le milieu. Et j'étais super bien accueillie, enfin, les gens, pour la plupart, connaissaient le roman de Fatima Das. Il y a eu beaucoup de solidarité, d'amitié autour du projet, enfin, vraiment, c'était trop bien.
Et qu'est-ce qui vous a frappé visuellement, justement, quand vous êtes allé dans ces endroits que vous ne connaissiez pas et qu'on retrouve dans le film ?
Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose, quoi. Et je me sentais bien, une ambiance tranquille. En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est que les gens avaient l'air de se sentir en sécurité. Et ça, ça m'a vraiment bouleversée parce que, justement, il y avait un abandon, un lâcher-prise qui était vraiment bouleversant et communicatif, quoi.
J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or.
La petite dernière d'Afserzi, comme d'ailleurs l'intérêt d'Adam de Laura Vandel, tous les deux sortiront en salle le 1er octobre dans les salles françaises. On sera donc amené évidemment à y revenir. Nous profitons de ce plan large en direct du Festival de Cannes pour vous annoncer nos prix à nous, les prix cinéma des étudiants France Culture. Ils étaient 8 en compétition cette année. Un jury constitué de plus de 2400 étudiantes et étudiants, je crois, a tranché. Et on les félicite de leurs excellents choix. Le lauréat 2025 est le passionnant et bouleversant No Otherland de Bazel Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham et Rachel Sor, un documentaire qui met des images sur ce qui se passe en ce moment même dans les territoires palestiniens occupés par Israël en Cisjordanie. Et puis dans la catégorie coup de cœur acide France Culture, c'est le très beau également, Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque qui a été primé. Les prix seront remis tout à l'heure en présence de toutes les votantes et tous les votants qui sont à Cannes. Et à cette occasion, une masterclass exceptionnelle avec le grand directeur de la photographie Darius Kondji se tiendra demain matin à 10h sur la terrasse de la plage Vega. Elle sera animée par l'ami Marie Sorbier. Et si vous êtes cannoise et cannois, vous êtes les bienvenus. Pour celles et ceux qui ne le sont pas, il y a pas mal de Cannes aussi sur la Cinéthèque, la cinémathèque en ligne des cinéastes. La Palme d'Or d'il y a 2 ans, Justine Trier y programme une carte blanche. Et puis vous y retrouverez également un focus sur Robert De Niro à l'occasion de la Palme d'Or d'honneur qui lui a été décernée mardi en ouverture du festival. Il y en a un qui n'a jamais eu de Palme d'Or, qui en aurait... pourtant mériter une, ça n'empêche pas le cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder de se voir honoré ce soir d'une nuit de France Culture. Fassbinder, cinéaste de l'Allemagne, c'est à partir de minuit et pour toute la nuit, donc sur France Culture. Ceci annoncé, on reste à Cannes, tel qu'on en parlait il y a 60 ans et quelques.
Remarquez que Widerberg, qui représente la nouvelle vague suédoise, a admirablement filmé cette histoire.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences invites you to be its guests at the 37th Annual Awards Presentation.
Yeah. The nominations for the best foreign language film of the year are Raven.
Many people believe that
Beaucoup de gens pensent que la Suède a maintenant deux grands metteurs en scène, Ingmar Bergman et vous.
Pour un jeune cinéaste suédois des années 60, d'être constamment renvoyé à Bergman, je ne sais pas quel effet ça pouvait faire. Il y avait un peu le sentiment que Bergman prenait tout l'espace d'une certaine façon, il fallait arriver non pas à tuer le père, mais enfin en tout cas à mettre le père un peu de côté pour pouvoir faire librement son œuvre.
Dans les années 60-70, l'autre cinéaste suédois, celui donc qui n'était pas Ingmar Bergman, c'était Bo Widerberg, et ça devait pas être évident, comme le rappelle Olivier Assayas dans Being Bo Widerberg de Jon Asp et Mathias Norborg, un documentaire qu'on a pu voir jeudi à Cannes Classique, cette section patrimoniale devenue un peu fourre-tout, où se croisent des chefs-d'œuvre récemment restaurés comme le Yi-Yi d'Edward Young, le Hard-Boiled de John Woo, les Nuages flottants de Mikio Naruse ou encore le Barry Lyndon de Stanley Kubrick, dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi des redécouvertes, comme les westerns de George Sherman, un cinéaste adulé par un Quentin Tarantino qui a fait spécialement le déplacement pour présenter ses films. On y trouve aussi des autoportraits d'acteurs, comme celui signé Raphaël Quenard, là, faudra peut-être nous expliquer ce que ça a de classique, et des documentaires sur le cinéma. C'est le cas donc de Being Bo Widerberg, qui sortira en salle le 11 juin pour accompagner une rétrospective de 11 fictions du réalisateur du Quartier du Corbeau, d'Elvira Madigan et de Joel, et j'en passe. Charlotte Garçon, revêtue, il faut le dire, de son plus beau t-shirt cahier du cinéma, avec le visage de Jean-Luc Godard, une nouvelle vague de Richard Linklater oblige, Charlotte.
Oui, Antoine, certains et certaines sont venus cette année sur la croisette pour y apercevoir Tom Cruise, et je l'ai vu de loin, il s'est effectivement prêté à un bain de foule et à quelques autographes. Et bien moi, j'ai fait le voyage cette année dans l'espoir de voir en personne à Cannes Classique Tommy Berggren, hier. Oui, Berggren, beauté absolue et conscience morale dont le regard irradie tout le cinéma de Bo Widerberg, de son premier long métrage de 1963, Le péché suédois, où l'acteur interprète un jeune homme riche et cultivé, amoureux d'une jeune fille d'un milieu populaire, à Joe Hill, dont il joue l'inoubliable rôle-titre, un immigré suédois, chantre et martyr de la lutte syndicale dans les États-Unis répressifs des années 10. Tommy Berggren, qui boule verse en transfuge de classe, quittant sa cité ouvrière de Malmö pour essayer de faire publier ses nouvelles à Stockholm dans les années 30, dans ce qui est sans doute, enfin en tout cas à mon sens, le plus beau film de Bo Widerberg, Le quartier du Corbeau en 1964, et encore Berggren, qui en jeune officier tout en bleu de la couronne suédoise à la fin du 19e siècle dans Elvira Madigan, dit à l'un de ses collègues venu le tirer de sa cavale avec cette jeune danseuse de corps, que, eh bien, lui, il ne reviendra pas dans l'armée, il ne reviendra pas dans l'aristocratie, dans la famille, parce que désormais, avec cette saltimbanque, il est passé du côté des femmes. J'aime bien cette expression, passé du côté des femmes. Alors, si finalement Tommy Berggren n'a pas pu rejoindre la croisette pour des raisons de santé, hein, faut rappeler qu'il a quand même 87 ans, Pia Degermark, sa jeune partenaire, l'Elvira Madigan du film de 1967, était présente pour introduire le documentaire de Jon Asp et Mathias Norborg, Being Bo Widerberg, et donc lancer toutes ces ressorties des 11 films restaurés qu'on va voir en salle en France le mois prochain. Alors dans le documentaire, Pia Degermark se souvient de son séjour cannois et du prix d'interprétation féminine qui lui avait été attribué à elle, qui était une non-professionnelle et qui était d'ailleurs à peine sortie du lycée. Je la cite, « Au dîner du Carlton, après le prix, j'étais assise à côté d'Antonioni et on servait des cailles, ces petits oiseaux qui ressemblaient à des squelettes. J'ai regardé la caille dans mon assiette et je me suis dit, mais c'est moi. Je me suis levée, j'ai quitté le dîner et je suis rentrée en Suède. » Alors cette jeune fille, qui ne se sentait pas à sa place, rejoint un motif crucial du cinéma de Widerberg, dont les personnages font l'expérience d'une sorte d'étrangeté radicale à la famille, à la conjugalité ou au milieu professionnel, comme dans Amour 65, autofiction sur un cinéaste en tournage et en déroute. Mais ces héros plus ou moins rebelles, faut pas se tromper, ils appartiennent pas vraiment à un cinéma d'idées, à un cinéma à message. Dans un entretien à la fin des années années 60, le cinéaste déplore, je cite, le manque de sensualité de l'extrême gauche. Voilà. Et considère que la capacité à profiter de la beauté du monde, titre de son dernier film en 1995 d'ailleurs, est en elle-même une démarche politique. On reverra à cet égard Ad Allen 31 sur la répression sanglante d'une manifestation en Suède en 1931, mais dans lequel un garçon découvre la peinture de Renoir dans un livre que lui montre la femme du patron contre lequel toute sa famille fait grève. C'est justement pour ce film, Grand Prix spécial du jury en 1969, que Widerberg avait refusé d'assister à sa projection officielle parce que certains membres de son équipe n'y étaient pas autorisés, faute de tenue de soirée. Alors par ce boycott, le cinéaste faisait du protocole festivalier la métaphore de tout mépris de classe, soit exactement le contraire des scènes clés de ses films, ces moments suspendus où la rencontre de deux êtres d'origine différente subvertit l'ordre social. Dans le documentaire, l'un des lieux d'entretien est une petite maison de campagne dans la forêt où Widerberg passait ses étés enfant et où très tôt on apprend que sa famille lui a construit une cabane d'écriture. Alors ça m'a plu ce détail, je trouve ce détail touchant parce que cette cabane anticipe la salle de montage, seul lieu où sa psyché apparemment tourmentée semblait laisser Widerberg en repos et où il pouvait chercher un équivalent de la syncope en jazz dans les fragments scintillants du péché suédois, ou au contraire aspirer à quelque chose de beaucoup plus lié à l'harmonie dans un alliage presque trop beau entre image et son. Je pense au 21e concerto pour piano de Mozart qu'il enroule autour d'Elvira Madigan. Alors comme ses aînés de la nouvelle vague, le cinéaste suédois a d'abord été un cinéphile acharné et un critique féroce, animé par le désir et la souffrance de rendre compte d'un monde moderne à jamais diffracté. Les vieux films, écrivait-il à ses débuts, étaient basés sur un mensonge. Il parlait de continuité, d'intégrité, d'un monde intact et qui ne pouvait être perçu que d'une seule façon. Où est ce monde aujourd'hui ? Eh bien, on pourrait encore poser la question et en 2025, ce monde, je crois, est encore moins intact qu'il y a 60 ans. Mais les vieux films de Cannes classiques ont pris acte de sa diffraction. Et leur restauration font briller ces 1000 morceaux.
Merci Charlotte Garçon. La rétrospective Beau Widerberg avec le documentaire dont vous venez de parler, ce sera en salle le 11 juin prochain. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son à Cannes, Raphaël Rousseau, Gilles Gallinaro et Virginie Lorda. Et à Paris, Élise Leu. Merci à toutes les équipes de Radio France à Cannes d'avoir permis cette émission, en particulier Sandrine Bréchaud, Isabelle Derex et Alexandre Chenet. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24 à 7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
Et oui, Giacobacco et Kalimba Atwood célèbrent à la sortie de l'album Vaut mieux tard que jamais, le 31 mai 2025 au Redwood Theater. Deux paires de billets disponibles pour vous, chers auditeurs. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Ce 13e album indépendant de Giacobacco marque une étape importante dans le parcours du musicien, commencé dans un petit village du Cameroun rural et aujourd'hui animateur, percussionniste dans les écoles en Ontario. Ne manquez pas cette soirée inoubliable qui nous promet plein de surprises avec des invités spéciaux, Neil Osabu, Niamh Bill et le plus jeune fils de Njako, Connie Bako. DJ Moussa clôturera la soirée en mixant les derniers tubes et classiques africains. Une soirée pleine de surprises, entraînante, de joie et de convivialité. Comme toujours, les paroles de Giacobacco véhiculent un message puissant, mais souvent humoristique. Co-présenté par Batuki Music Society, le lancement de l'album « Vaut mieux tard que jamais » le 31 mai au Redwood Theater dans l'Est de Toronto. Tous les détails sur popourishow.com et batukimusicsociety.com. Deux paires de billets vous attendent. Priorité aux nouveaux membres de la radio. popourri@cut.fm. Bonne chance.
FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de $100,000 en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
Joe Dassin's story by his son, Julian Dassin. All Joe Dassin hits live.
Les Champs-Élysées, à toi, dans les yeux d'Émilie. Et si tu n'existais pas, si tu t'appelles Mélancolie, l'Amérique, l'été indien.
Joe Dassin's story by Julian Dassin, now on tour.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu.
All dates on www.juliandassin.com. Joe Dassin's story by his son, Julian Dassin.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the Francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Poco Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
CUT 89,5 FM et Tolalito Music ont le plaisir de vous présenter la sortie de Mboko, le nouveau single du collectif montréalais Exo Project, annonçant la venue de leur prochain album Red Flags and Roses. Avec des paroles sincères et des mélodies entraînantes, Mboko célèbre l'essence d'une femme extraordinaire, une bénédiction à chérir. Les artistes expriment ici un amour charnel et sincère, porté par des rythmes afro-envoûtants. La musique est réalisée par Rudy H. Écoutez Exo Project sur Spotify et iTunes. Mboko, le nouveau single du collectif montréalais Exo Project. À surveiller, mesdames, messieurs, en exclusivité sur popourishow.com et telalitomusic.com. Le Exo Project est un collectif d'artistes montréalais fondé par Eke Sounds et Rudy H, animé par une vision commune de mélanger la musique afro avec les rythmes vibrants des Caraïbes. Une présentation de Tolalito Music et Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, la radio des découvertes des musiques du monde.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Émissions spéciales et en public, ateliers, journées portes ouvertes, ne manquez pas la fête de la radio.
Émissions spéciales et en public, ateliers, journées portes ouvertes, ne manquez pas la fête de la radio.
Émissions spéciales et en public, ateliers, journées portes ouvertes, ne manquez pas la fête de la radio.
Émissions spéciales et en public, ateliers, journées portes ouvertes, ne manquez pas la fête de la radio.
Émissions spéciales et en public, ateliers, journées portes ouvertes, ne manquez pas la fête de la radio dans toutes les régions de France.
Bonjour, ici Peter Biraud, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Du 26 mai au 1er juin, le son de votre ville, The Sound of Your City, a besoin de vous. Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, l'émission qui vous accompagne depuis plus de 38 ans. Potpourri Show, la francophonie dans toute sa diversité. Toutes les littératures et les musiques du monde sur votre fréquence. Potpourri Show, CUT FM, en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde. Potpourri Show, des perspectives d'ici et d'ailleurs. Du 26 mai au 1er juin, je vous invite, madame, monsieur, à faire un don en visitant notre site web cut.fm et cliquez sur « Donate ». Et faites un don à Potpourri Show. Maintenant, merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien à la liberté d'expression, la tolérance et la diversité des peuples.
Sur l'affiche de cette année, exposée sur le Palais des Festivals, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans l'inoubliable Un homme et une femme, Palme d'or 1966. Le 78e Festival de Cannes, l'un des plus grands rendez-vous du cinéma mondial, ouvre ses portes tout à l'heure sur la Croisette. En choisissant ce film pour décor, l'équipe du festival a dit vouloir resserrer les corps, les cœurs et les âmes.
C'est toujours une appréhension énorme le fait de venir à Cannes. Mais on est vraiment récompensé en fait. J'ai envie de le refaire.
I am pinching myself. This is a marvel.
There's no place like here.
It's always evolving and changing.
You get all this sudden attention and you're part of this like crazy experience.
C'est comme un manège qui s'arrête jamais.
It was a dream come true for a film to be selected in the main competition in Cannes.
It's impossible to find words to tell you how I feel.
Du 13 au 24 mai 2025, nos médias partenaires s'installent sur la Croisette pour le Festival de Cannes. MeToo, Gaza et l'Ukraine au menu des débats. Avec son cortège de stars, à commencer par Robert De Niro, le 78e Festival de Cannes a débuté avec la comédie musicale « Partir un jour » d'Amélie Bonin et la rayonnante chanteuse Mylène Farmer. Cette année, le festival se tient dans un contexte de monde déchiré par les conflits de l'Ukraine à Gaza, au cœur d'une tribune signée par des dizaines de personnalités du cinéma. Du 13 au 24 mai, CUTFM vous donne rendez-vous en compagnie avec ses radios partenaires sur la Croisette. Suivez-nous en direct sur notre page Facebook ou Instagram. Plus d'infos sur popourishow.com. Cette année encore, et ce malgré les tarifs douaniers de Trump imposés sur l'industrie du cinéma au Canada, plus de 200 professionnels québécois et canadiens seront sur place afin de participer à ce prestigieux événement international. Festival de Cannes 2025 sur CUT 89,5 FM accueillera encore cette année tout le gratin du cinéma mondial en partenariat avec RFI France 24, TV5 Monde et France Inter.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire pour cette dernière étape de notre tour du monde estival au sein des Alliances françaises, si l'on considère que le monde s'est donné rendez-vous à Toronto. Toronto, cette mégapole de 5 millions de citizens, est la capitale économique de l'immense Canada. Le Canada, c'est le second plus grand pays de la planète après la Russie. 10 millions de kilomètres carrés partagés par 36 millions d'habitants et autant d'élan, de caribous ou d'orignaux certainement.
Terre d'Alliance, Alexandre Hérault, sur France Inter.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vit, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est à rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Popourri Show, une émission présentée par Eric Kader. Mise en onde, DJ Devera et les techniciens de Hard House, Université de Toronto. En partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde et France Inter.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
Merci d'écouter RFI, 9h à Washington, il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Contner.
Dernière partie sur le continent américain. Nous irons aux États-Unis pour parler avec notre invité de la santé de Joe Biden. Un livre paraît aujourd'hui révélant que le président américain, lorsqu'il était encore au pouvoir, faisait face à une santé défaillante, à des absences, une confusion que l'on avait pu observer ensuite durant des débats télévisés ou un certain nombre de ses interventions. On ira aussi en Haïti parler de la situation sécuritaire, notamment avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, Benoît Ferrand, nous parlerons de la Guadeloupe. C'est la dernière ligne droite pour la campagne sucrière.
Les conditions météo n'ont pas été très favorables ces derniers temps, mais le retard devrait pouvoir être rattrapé. Précision à suivre de nos confrères de la Première Guadeloupe.
À tout à l'heure.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les États-Unis où Donald Trump met de l'huile sur le feu.
I think it's very sad, actually. I'm surprised that it.
Je pense que c'est très triste, dit le président américain parlant du cancer dont souffre son prédécesseur Joe Biden. Mais il ajoute, je m'étonne que le public n'ait pas été informé il y a bien longtemps parce qu'il faut beaucoup de temps pour arriver au stade 9 de la maladie. Et ça n'est pas anodin de soulever cette question, surtout ces jours-ci. Bonjour Romuald Ciora.
Bonjour.
Directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, vous êtes auteur de l'ouvrage « L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence » paru aux éditions Armand Collin. Je dis que ça n'est pas anodin parce qu'aujourd'hui sort un livre, une enquête de deux journalistes reconnus aux États-Unis révélant que l'état de santé de Joe Biden s'est dégradé sans que l'opinion n'en soit informée. Alors là, on ne parle pas du cancer qui a été annoncé il y a deux jours. Le livre décrit la manière dont un petit cercle a dissimulé certains changements, la confusion du président, les absences qui avaient sauté aux yeux des Américains pendant la campagne électorale de l'an dernier. Pourquoi la transparence a paru impossible à ses proches du président ?
Écoutez, cela pour plusieurs raisons, mais ce que le livre révèle, et qui était quand même un secret de Polichinelle à Washington, c'est que le président Biden, enfin le futur président Biden, a commencé à connaître des problèmes liés à sa connectivité dès 2015, qui se sont accentués au moment de la campagne de 2020 pour son élection. Il était très entouré, ses discours étaient calibrés par des spécialistes de la connectivité, etc. Donc ce n'est pas quelque chose de récent. Pour répondre clairement à votre question, il faut avoir à l'esprit que Joe Biden était entouré d'un petit clan, c'est pour ça que l'on parle d'omerta, de politburo, d'un petit clan qui avait pour objectif de le maintenir le plus longtemps au pouvoir et qui l'a poussé à se représenter en 2024 alors qu'il était clair que le président ne pouvait déjà plus assumer sa fonction et encore moins prétendre à être à la Maison-Blanche jusqu'en 2029.
Donc, mais c'est ça, l'opacité clan... fonctionnait, pardon je fais juste une petite incise parce que ça figure aussi dans le livre, l'opacité fonctionnait dans les deux sens. Lui aussi était entretenu dans une sorte de flou.
Oui, tout à fait. Disons que jusqu'en 2022, Joe Biden était encore conscient de la plupart de ses grandes décisions. À partir de 2022, c'est le moment d'ailleurs où il a présenté devant les caméras du monde entier sa petite fille en la présentant comme son fils beau, qui lui-même était décédé depuis plusieurs années, que les choses, permettez-moi l'expression, ont commencé à dérailler et que on a eu affaire à un président de plus en plus absent. Une fois encore, le livre révèle quelque chose qui était quand même un secret de Polichinelle. Ce livre est excellent, je l'ai lu. Il met en avant la manipulation donc qui a été faite par ce petit groupe, ce petit clan autour de Joe Biden, mais également cette omerta qui à laquelle ont contribué la Maison Blanche bien sûr, mais les grandes institutions américaines, le Parti démocrate, une peur de représailles pour de nombreux élus de ne pas pouvoir être investis pour les élections de mi-mandat de 2022 ou pour les législatives de 2024, une peur de perdre des postes, etc. Une omerta qui s'est poursuivie, qui est allée, pardon, jusqu'aux grands médias démocrates et progressistes du pays, qui ont tenté un maximum de cacher la vérité et de banaliser la chose en parlant des gaffes auxquelles nous avait habitué Joe Biden. Ce que le livre met à jour très clairement en scénarisant l'affaire, c'est plus qu'un scandale d'État, plus qu'un mensonge d'État. On peut, et ici on parle de crime à l'encontre de la démocratie américaine. C'est un coup très dur qui donne de l'eau au moulin aux complotistes. Le livre révèle que la Maison Blanche a été jusqu'à truquer des vidéos afin que l'on ait l'impression que le président se déplaçait normalement. Donc ça va quand même très 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 loin, et cette volonté de maintenir à tout prix le président est incompréhensible dans une démocratie libérale. Je dirais que ça pourrait se comprendre dans une dictature. Si le dictateur chute, le régime peut chuter. Là, nous sommes dans une démocratie qui fonctionne encore. Le président est incapable de remplir ses fonctions. Il y a un vice-président, en l'occurrence une vice-présidente. Non, tout cela s'explique par la volonté d'un petit groupe de maintenir le président au pouvoir le plus longtemps possible, et donc de se maintenir lui-même, ce petit groupe, au pouvoir.
Et qui a donc choisi pour cela l'opacité la plus totale, et ça se poursuit puisque les auteurs du livre ont rencontré de très nombreux témoins qui, pour l'immense majorité d'entre eux, ont choisi l'anonymat pour parler. Là encore, ça n'est pas transparent.
Bien évidemment, vous aviez la gentillesse de parler de mon livre précédemment, et de mon livre, il y a une scène avec l'une des plus proches collaboratrices du président à la Maison Blanche où j'étais, qui effectivement parle de la santé du président, mais également de façon anonyme. Alors encore à l'époque, ça pouvait se comprendre, elle était en fonction, le président était en fonction. Aujourd'hui, dans les plus récentes interviews menées par les auteurs du livre Original Sin, les personnes interviewées, dans la plus grande majorité, souhaitent rester anonymes. Il ne faut pas oublier que le clan Biden est encore très influent au sein du Parti démocrate, dans un Parti démocrate qui aujourd'hui a été tétanisé par la défaite de l'automne dernier, qui est encore aphone. Il n'y a pas de grande voix démocrate sur la scène politique, qui se fait entendre sur la scène politique américaine, et tout ce petit monde est en train de se bagarrer pour savoir qui pourra se présenter aux élections de mi-mandat, et surtout qui pourra se présenter en 2028. Donc toutes ces personnes sont aujourd'hui en train de se bagarrer entre elles, et il y a encore une peur de parler ouvertement et de représailles, si ce n'est de Joe Biden lui-même, il en serait bien incapable aujourd'hui malheureusement pour lui, mais de son clan, et de ce clan Joe Biden qui va jusqu'au clan Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre, qui demeure très très influente au sein du Parti démocrate.
Et qui, elle aussi, avait soulevé un certain nombre d'ailleurs d'interrogations quant à son état de santé. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des conséquences politiques de ces absences et de ces confusions de Joe Biden ? Parce que c'est aussi ça le propos du livre. C'est pas seulement, même pas du tout, de dire qu'il faudrait tout dire dans une dérive presque voyeuriste. C'est de dire que les conséquences, elles concernent en fait tout le monde.
Bien évidemment, en aucun cas ces auteurs ou quiconque de sérieux appellerait un voyeurisme concernant la santé des chefs d'État. Mais là, on parle d'un handicap mental très grave. On ne parle pas de Franklin Roosevelt qui, dans les années 30 et 40, cachait le fait qu'il était en fauteuil roulant, ce qui en rien le rendait incapable à diriger le pays. Il a d'ailleurs été l'un des plus grands présidents américains. Là, on parle d'un président, pardonnez-moi l'expression un peu facile, mais sénile, qui confondait ses collaborateurs, confondait les pays, etc., etc. Joe Biden a été un très grand politicien jusqu'en 2016, jusqu'à son départ de la vice-présidence. Il a été un très mauvais président. Sa politique internationale a été catastrophique. Et sans aucun doute, comme le disent les auteurs et comme le confirment de nombreux témoins, ses problèmes récurrents de cognitivité, lorsque l'on sait que lors des deux dernières années, il n'avait que quelques heures véritablement de lucidité par jour, sont évidemment moment ont évidemment impacté la politique internationale du président. On parle du président des États-Unis, on parle pas du roi d'Angleterre, quelqu'un dont les décisions ont des répercussions mondiales. Donc effectivement, l'opacité, l'omerta autour de cette maladie aura occasionné des répercussions gravissimes pour les États-Unis, mais aussi pour la communauté internationale, occidentale en tout cas.
Merci beaucoup Romuald Sura d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS et puis je redonne le titre de votre livre, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. C'est paru aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
RFI, The World's Voices.
On va rester aux États-Unis avec votre revue de presse, Achim Leipold. Revue de presse qui se concentre au début sur ce coup de fil hier entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les journaux se montrent très critiques de l'attitude du président américain.
Oui, Donald Trump n'est pas connu pour sa patience ni pour sa clémence envers ceux qui défient sa volonté, écrit le Washington Post ce matin. Mais ces derniers jours, il s'en est pris tour à tour à la procureure générale de New York, à Bruce Springsteen, à Beyoncé et à l'ancien directeur du FBI, James Comey, tous visiblement coupables, à ses yeux en tout cas, de l'avoir contrarié d'une manière ou d'une autre. Mais, poursuit le journal, lorsqu'il s'agit du dictateur russe Vladimir Poutine qui continue de saboter les efforts de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, le président américain fait preuve d'une patience, d'une bienveillance et d'une compréhension sans fin. En coulisses, selon le Wall Street Journal, Donald Trump se plaint que mettre fin à une guerre est plus difficile qu'il ne le pensait. Sans blague, commente le Washington Post, et suggère au chef de la Maison-Blanche de traiter Vladimir Poutine comme il traite tous ceux qui lui tiennent tête. Mais pour l'instant, conclut le journal, c'est Vladimir Poutine qui mène Donald Trump en bateau et le président américain ne semble même pas s'en rendre compte.
Donald Trump pourrait se désengager de la guerre en Ukraine parce que de son point de vue, c'est une affaire strictement européenne.
Oui, et selon cette idée, Anne, l'aide américaine serait donc un geste charitable plutôt qu'un impératif stratégique. Or, le New York Times avertit que cette vision est dangereusement simpliste selon ce quotidien. L'objectif de Vladimir Poutine ne se limite pas à l'Ukraine, il cherche à remettre en cause l'ordre européen d'après-guerre froide et à restaurer l'influence globale de la Russie au détriment des États-Unis. Un accord de paix mal négocié risquerait de fragiliser l'Europe, un partenaire économique majeur des États-Unis, et d'aggraver les défis géopolitiques auxquels Washington est déjà confronté. Le journal conclut que l'administration Trump devra tôt ou tard affronter le Kremlin, mais plus elle attend, plus cela coûterait cher aux États-Unis.
Autre sujet qui fait les gros titres dans le pays, la décision de la Cour suprême qui autorise l'administration Trump à révoquer le statut de protection temporaire pour les migrants vénézuéliens.
Oui, le gouvernement pourrait donc expulser quelque 350 000 Vénézuéliens alors que cette affaire est toujours jugée devant les tribunaux. Chez les Vénézuéliens de Miami, c'est la panique. Une Vénézuélienne citée par le Miami Herald dénonce une décision cruelle qui laisse des milliers de personnes dans un vide juridique. Ils pourraient perdre leur statut et leur autorisation de travail. Selon cette habitante d'Orlando, la Cour suprême fait fi de la dignité humaine et des valeurs fondamentales américaines, comme celle de protéger ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux en sécurité. Et Cecilia González Herrera, c'est son nom, de poursuivre, nous sommes des gens honnêtes, étudiants, enseignants, soignants, qui contribuent grandement à ce pays. Nous méritons mieux que de vivre dans la peur d'être renvoyés vers un pays dangereux. Le journal El Nacional souligne qu'en Floride, où réside environ la moitié des plus de 600 000 Vénézuéliens présents sur le territoire américain, beaucoup avaient voté pour Donald Trump, pensant qu'il soutiendrait leur combat contre le président Nicolas Maduro. La suppression du TPS est d'autant plus difficile à vivre pour cette communauté, Anne, que ce statut de résidence temporaire est maintenu pour d'autres nationalités, comme pour les Salvadoriens, par exemple.
Alors, concernant toujours cette politique d'immigration de l'administration Trump, on a vu commencer cette semaine les premières auto-expulsions telles qu'elles ont été désignées.
Oui, c'est-à-dire dans le Texas Tribune, le premier vol du programme d'expulsion volontaire a décollé de Houston hier soir. Selon le département de la sécurité intérieure, 64 personnes ont accepté de repartir dans leur pays. Ils ont reçu 1 000 $ et la possibilité de revenir légalement aux États-Unis. Mais les défenseurs des droits des immigrés mettent en doute la sincérité des promesses du gouvernement.
Et on termine votre revue de presse avec une interrogation de Politico. Où est passé Elon Musk ?
Il a disparu de l'avant-scène politique, constate le journal en ligne, autrefois omniprésent dans les communications de la Maison-Blanche et dans les déplacements présidentiels. Le PDG de Tesla n'est presque plus mentionné par Donald Trump ni par ses alliés. Simple oubli ou calcul politique, selon Politico. Cette mise en retrait coïncide en tout cas avec une chute de sa popularité dans l'opinion publique, y compris chez les électeurs républicains. En coulisses, croit savoir le site d'information, Elon Musk continue à jouer un rôle important. Du côté démocrate, le milliardaire demeure un épouvantail utile, bien que son nom soit moins utilisé qu'auparavant. Il sert toujours de symbole pour dénoncer les excès trumpistes.
Revue de presse signée Achim Lipold, à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va maintenant lire la presse en Haïti. Nous sommes en ligne comme chaque mardi avec notre confrère, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
Vous consacrez la une de votre site à la centrale hydroélectrique de Péligre dans le département de l'Est, toujours bloquée.
Oui, et bien face à la crise sécuritaire qui ravage notamment Sodo et Mirbalet, qui sont des villes du plateau central à l'est du pays, et bien des organisations locales, par la voix de Maître Robinson Mazarin, réclament des réponses urgentes de l'État haïtien. Elles exigent le rétablissement de la sécurité et le respect de la dignité humaine. Et selon Mazarin, l'État les a abandonnés, ce qui signifie la prise d'initiative, ce qui justifie de préférence la prise d'initiative citoyenne pour alerter sur la gravité de la situation. Il affirme que la ville de Sodo est entièrement sous contrôle des gangs et Mirbalet a 90%, l'ordre public est inexistant et des milliers de personnes vivent dans des conditions inhumaines après avoir fui les violences et perdu leurs biens ou des êtres chers.
La situation sur place, elle a été évoquée par les autorités de transition lors de la fête du drapeau avant-hier, une fête Godson qui s'est déroulée dans un climat très tendu.
Eh bien, Anne, dans son discours, Fritz Jean, président du Conseil présidentiel de transition, a reconnu que l'origine de l'armement des gangs est bien connue. C'est ce qu'il a dit. Il a dénoncé les réseaux qui approvisionnent les criminels en armes et munitions. S'il y a des alliances internes et externes qui ont conduit le pays à cette impasse, a-t-il dit. Il a affirmé que le Conseil travaille maintenant à reprendre le contrôle du territoire, et ces déclarations ont suscité de vives critiques sur place, mais aussi dans les milieux politiques. Si les autorités savent qui sont les responsables de cette situation d'insécurité, pourquoi n'agissent-elles pas ? C'est la question qui est formulée.
Et puis, Godson, vous revenez sur le cas de l'ancien chef de gang Germaine Joly, reconnu coupable de l'enlèvement de missionnaires américains par la justice des États-Unis.
Eh bien, Joly est un ex-chef du gang 400 Marozo, basé au nord-est de Port-au-Prince. Il a été reconnu coupable, en effet, de l'enlèvement de 16 missionnaires américains en octobre 2021 en Haïti. Les victimes, dont 5 enfants, avaient été retenues 62 jours. Depuis sa cellule en Haïti, Joly dirigeait l'opération via des téléphones clandestins. Et cette condamnation est la deuxième qu'il subit depuis son extradition et sa détention sur le sol américain.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On vous retrouvera ici sur cette antenne la semaine prochaine, comme tous les mardis. Et d'ici là, on peut vous lire sur votre site alterpress.org.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Guadeloupe. C'est la dernière ligne droite pour la campagne sucrière qui devrait s'achever, comme prévu, le 12 juillet prochain.
Les conditions météo n'ont pas été très favorables ces derniers temps. Couper de la canne à sucre sous la pluie, ce n'est pas l'idéal. Mais enfin, le retard devrait pouvoir être rattrapé. Précision de notre consoeur de la première Guadeloupe, Josiane Champion.
Depuis le lancement de la récolte le 10 février, Gardel a broyé environ 272 000 tonnes de canne, soit 60% des 455 000 tonnes prévues cette année. La cadence a été fortement ralentie avec les pluies abondantes tombées pendant 10 jours d'affilée. La semaine dernière, l'usine a tourné avec seulement 1500 à 2000 tonnes de canne par jour, contre une moyenne quotidienne de 4200 tonnes au cours des 3 semaines précédentes. Beaucoup de champs étaient impraticables pour les engins de coupe et de transport quand ils ne sont pas carrément sous l'eau, comme la plaine de Blanchette à Mornalo d'eau noyée depuis 15 jours. Chaque matin, les opérateurs tentent de trouver des parcelles accessibles. Hier, les pluies avaient cessé, mais à la mi-journée, Gardel n'avait reçu que 600 tonnes uniquement de la basse terre, où les sols absorbent plus vite l'eau. En grande terre, on attendait le retour du vent pour faire sécher les sols. Alors les 183 000 tonnes de canne encore debout pourront-elles être coupées en 8 semaines? Le délai est encore tenable, avec même une semaine de marge, estime Iguacan, qui s'est réunie vendredi. Les quelques 200 000 tonnes de canne renvoyées, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas été coupées l'an dernier, devaient toutes être récoltées durant les 4 premières quatorzaines, donc avant début avril. 15 à 20% sont encore en attente aujourd'hui. Quant à la richesse saccharine, elle est de 7,33 en moyenne cumulée. C'est 1 à 1,5 en dessous du taux habituel à cette période. Mais l'effet des pluies se fera ressentir d'ici 3 semaines, sachant que dans son cycle végétatif, la canne commence à perdre du saccharose à partir de fin mai.
Direction la Guyane avec une bonne pinte de science. Ce mardi soir à Cayenne, route de Montabeau, dans un bar. Le but de l'opération, organisée chaque année dans plus de 25 pays, n'est pas de constater scientifiquement combien de pintes on peut ingurgiter, mais beaucoup plus sérieusement, de partager avec le grand public des informations scientifiques, le tout dans une ambiance décontractée. Emma Chevalier.
Ce rendez-vous pour le moins original se penche ce soir sur les palmiers de Guyane. Propriétés cosmétiques, atouts économiques, savoir-faire ancestral. Des enseignants-chercheurs de l'Université de Guyane et du Centre spatial guyanais rendront compte de leurs études sur les fruits des palmiers. La rencontre se poursuivra avec des entrepreneurs guyanais exploitant l'Awara dans la cosmétique. Focus donc sur l'entreprise Elayan et Yana Farm, leurs histoires, leurs procédés d'extraction ou encore le potentiel de développement agricole pour la Guyane. Le public est déjà au rendez-vous puisque les places sont épuisées.
Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand. Voilà pour l'actualité des Outre-mer françaises et c'est ainsi que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée ce mardi par Vincent Biteau. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Et bien sûr, vous restez sur RFI. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour l'émission De Vive Voix avec son invité, le comédien et metteur en scène français Stanislas Nordet, pour parler de la pièce qu'il présente en ce moment au Théâtre de l'Odéon à Paris, l'hôtel du libre-échange de Feydeau. Très bonne journée à tous, à demain.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Comment se lancer dans la biographie de la légende Mbappé quand on n'a jamais suivi en entier un de ses matchs et qu'on ne connaît rien au football? C'est le défi qu'accepte une romancière sans succès, condamnée à raconter la vie des autres. Un récit féroce et drôle, Kylian, signé Anne Akrich.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Eh oui, Popourri Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPCA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPCA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPCA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourrichaud.com. Au mois d'octobre, Vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
CUT 89,5 FM et Tolalito Music ont le plaisir de vous présenter la sortie de Mboko, le nouveau single du collectif montréalais Exo Project, annonçant la venue de leur prochain album Red Flags and Roses. Avec des paroles sincères et des mélodies entraînantes, Mboko célèbre l'essence d'une femme extraordinaire, une bénédiction à chérir. Les artistes expriment ici un amour charnel et sincère, porté par des rythmes afro-envoûtants. La musique est réalisée par Rudy H. Écoutez Exo Project sur Spotify et iTunes. Mboko, le nouveau single du collectif montréalais Exo Project. À surveiller, mesdames, messieurs, en exclusivité sur popourishow.com et tolalitomusic.com. Le Exo Project est un collectif d'artistes montréalais fondé par Eke Sounds et Rudy H, animé par une vision commune de mélanger la musique afro avec les rythmes vibrants des Caraïbes. Une présentation de Tolalito Music et Popourishow sur CUT 89,5 FM, la radio des découvertes des musiques du monde.
Ça y est, seulement besoin de vous. C'est juste pas au bon langue.
Ça tout fait pour pas gagner. De femmes tant pour non pas gagner. Et si vous avez promis mes sans hésiter, moi pas plein. Ça tout fait pour pas gagner. De femmes tant pour non pas gagner. Et si vous avez promis mes sans hésiter, moi pas plein. Yeah, yeah.
It's time to tell the way I see this thing go. Lay on my back, she let the whole thing go. Just my black ring carried up easy code. I swear to God, I want my damn tango. Mboko, Mboko, hey, Mboko, 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 I'm mine, Mboko, baby.
De 11h à 13h, Popourishow sur CUT 89,5 FM Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
La radio communautaire à temps plein, à son meilleur, 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton « Donate » pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
On est toujours là. On est partout.
Chez vous ? Dans votre voiture ?
On vous fait rire. On vous donne des nouvelles du monde.
Et on passe votre musique préférée.
On est là quand vous êtes seul ou tous ensemble.
Vous ne pouvez pas toujours nous voir.
Mais vous pouvez nous entendre.
Aujourd'hui, écoutez chacun d'entre nous via la radio digitale de demain.
Car aujourd'hui, la FM passe au DAB+.
DAB+, ma radio en mieux.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer the kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Du 26 mai au 1er juin, le son de votre ville, The Sound of Your City, a besoin de vous. Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, l'émission qui vous accompagne depuis plus de 38 ans. Potpourri Show, la francophonie dans toute sa diversité. Toutes les littératures et les musiques du monde sur votre fréquence. Potpourri Show, CUT FM, en partenariat avec RFI, France 24, TV5 Monde. Potpourri Show, des perspectives d'ici et d'ailleurs. Du 26 mai au 1er juin, je vous invite, madame, monsieur, à faire un don en visitant notre site web cut.fm et cliquez sur « Donate » et faites un don à Potpourri Show. Maintenant, merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien à la liberté d'expression, la tolérance et la diversité des peuples. Potpourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto, a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto. Du 13 au 24 mai 2025, nos médias partenaires s'installent sur la croisette pour le Festival de Cannes. MeToo, Gaza et l'Ukraine au menu des débats. Avec son cortège de stars, à commencer par Robert De Niro, le 78e Festival de Cannes a débuté avec la comédie musicale « Partir un jour » d'Amélie Bonin et la rayonnante chanteuse Mylène Farmer. Cette année, le festival se tient dans un contexte de monde déchiré par les conflits de l'Ukraine à Gaza, au cœur d'une tribune signée par des dizaines de personnalités du cinéma. Du 13 au 24 mai, CUTFM vous donne rendez-vous en compagnie avec ses radios partenaires sur la croisette. Suivez-nous en direct sur notre page Facebook ou Instagram. Plus d'infos sur popourichaud.com. Cette année encore, et ce malgré les tarifs douaniers de Trump imposés sur l'industrie du cinéma au Canada, plus de 200 professionnels québécois et canadiens seront sur place afin de participer à ce prestigieux événement international. Festival de Cannes 2025 sur CUT 89,5 FM accueillera encore cette année tout le gratin du cinéma mondial. En partenariat avec RFI France 24, TV5 Monde et France Inter.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h50. Les mots de nos régions avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Les mots du cinéma aujourd'hui, Mathieu, en plein Festival de Cannes. L'occasion de parler des histoires d'amour, des trahisons et des stars.
Oui, Jérôme, parce que derrière les flashs et les marches en velours rouge, il y a toujours un petit théâtre linguistique. Tenez, commençons par l'amour, le vrai, ou du moins celui qu'on croit vivre dans les 10 premières minutes du film. Au cinéma, comme dans la vie, ça commence toujours par un regard. Puis viennent la rencontre, la drague, le baiser, et parfois la mise en couple. Eh bien, figurez-vous que chaque région a ses propres mots pour raconter ses étapes, comme autant de scènes d'un film. À Marseille, on espinche quelqu'un du coin de l'œil, ou on bade sur lui.
Oui, on bade.
Un mot désormais déjà installé dans le français des jeunes, oui. Et dans le Berry, on arreuille un regard insistant, presque hypnotique. Pour draguer, sinon, les régions rivalisent aussi d'imagination. À Marseille, à nouveau, en alpague et en Lorraine, on court après quelqu'un. Et si la flamme prend, on peut même être bleu de quelqu'un, comme on dit en Belgique.
Ça, c'est beau.
Ouais, pas mal, hein. Vient ensuite le baiser, ou devrais-je dire la colle dans le Perche, ou la babache dans le Nord-Pas-de-Calais. Faire un bisou en Sologne, c'est biger. En Franche-Comté, on dira plutôt biquer. Autant de façons de s'embrasser à la façon cinéma, avec travelling avant et musique de cordes.
Cannes, ce sont aussi les stars et leurs caprices.
Et là aussi, chaque région a ses mots pour désigner les personnages hauts en couleur qu'on croise sur les tapis rouges. Il y a d'abord les émotifs dans le Nord, celui qui pleurniche à la moindre contrariété et qu'on qualifie de braillou, toujours à se lamenter, même quand il décroche un prix. Il y a aussi les frimeurs à Marseille, le type qui roule des mécaniques, c'est un cacou. Et s'il est tanké, ça veut dire qu'il est bien bâti. Chez les femmes aussi, on a tout un éventail. Dans la Provence, la chichinette fait des chichis pour tout et rien. Tout est à faire en fait de mise en scène plus clinquante encore, la cagole à Marseille ou la piche à Montpellier, maquillage appuyé, démarche assurée, regard qui tue, des figures devenues presque mythiques et pas seulement dans le sud. Et puis ben, on peut parler aussi des relous,
ceux
qu'on regarde moins gentiment depuis MeToo. En Provence, ce sont les frottadous, dans l'Est, des courateurs, à Lyon, des couratiers et dans le Jura, des courandiers. Et puis enfin, dans les coins un peu plus tranquilles, on a la basselle lorraine, une jeune fille souvent romantique, un peu à part, rien à voir avec le bachelor de la télé-réalité, même si étymologiquement, les deux mots sont apparentés.
Ah, une passerelle entre bassel et bachelor. C'est un peu comme s'il y avait un petit film dans chaque mot, au fond, Mathieu.
Mais oui, parce que la langue, c'est du scénario en continu. Chaque mot, c'est une réplique, chaque expression, une mise en scène. Et les régionalismes sont les figurants discrets de cette espèce de cinéma. Et c'est pas par hasard, hein, si les grands réalisateurs aiment tant les dialogues qui claquent. Audiard, Pagnol, Jaoui Boukbakri, ce sont des linguistes déguisés. Ils savent que la langue la plus juste, c'est souvent celle qu'on entend sur un marché, dans une cuisine ou au cœur d'une embrouille sentimentale à la terrasse d'un bistrot.
Ils sont à l'écoute, un peu comme vous, cher Mathieu, chaque lundi. Dit dans ce 13-14, notre linguiste Mathieu Avanzi.
Jérémy and Jérôme are the new red carpet DJs. Every day, they mix and set the mood to accompany the various events. It all starts an hour beforehand. They have to prepare the required music, such as that of the film crew, and decide on the playlist at a glance. These are reference pieces that directly echo the actor's filmography. For example, when it comes to musical artists, it can also be songs that they have performed.
Head to the mixing desk 15 minutes before the show. This afternoon, all styles are in the spotlight, but especially oriental music to welcome the film crew of the Eagles of the Republic. For these two DJs who are more used to nightclubs, this exercise on the steps of the red carpet is very different. The goal is really to do gymnastics to share happiness with people. To try to create an atmosphere with a common theme that is both consistent and eclectic, since we play rock, pop, disco, punk, and also French songs. We will be able to play the Carnival of the Animals, the official theme song for all the climbs and steps. We leave a silence to create a roar in the audience. It's the turn of the team from the film In Competition, Fowler Le Tapis Rouge, with its director Tariq Sal. The DJs play one mix after another, and they end their musical marathon with the set music.
We saw people singing, people dancing, and people not dancing. So of course, it made us happy. It's a bit of a reward too. That's what makes us the happiest.
Pour nous aider à poursuivre notre mission, je vous invite, madame, monsieur, à contribuer en grand nombre à notre campagne de financement qui bat son plein. Eh oui, c'est la campagne printanière. Il est plus que jamais important de démontrer notre attachement à la liberté de la presse et à Potpourri Show, la seule voix francophone et créole sur la radio de l'Université de Toronto. Allez visiter notre site web et faites un don en toute sécurité. www.cut.fm et faites un don à Potpourri Show. Et si vous souhaitez venir nous rendre visite en studio, eh bien, je vous invite le 1er juin à notre brunch du dimanche. Écrivez-moi à potpourri@cut.fm afin de réserver votre place. Bako et Kalima Atwood célèbrent la sortie de l'album Vaut mieux tard que jamais, le 31 mai 2025 au Redwood Theatre. Deux paires de billets disponibles pour vous, chers auditeurs. Écrivez-moi immédiatement à popourri@cut.fm. Ce 13e album indépendant de Jaco Bako marque une étape importante dans le parcours du musicien, commencé dans un petit village du Cameroun rural et aujourd'hui animateur, percussionniste dans les écoles en Ontario. Ne manquez pas cette soirée inoubliable qui nous promet plein de surprises avec des invités spéciaux. Neil Osabu, Niyama Bill et le plus jeune fils de Njako, Kony Bako. DJ Moussa clôturera la soirée en mixant les derniers tubes et classiques africains. Une soirée pleine de surprises, entraînante, de joie et de convivialité. Comme toujours, les paroles de Njako Bako véhiculent un message puissant mais souvent humoristique. Co-présenté par Batuki Music Society, le lancement de l'album Vaut mieux tard que jamais, le 31 mai au Redwood Theatre dans l'Est de Toronto. Tous les détails sur popourishow.com et batukimusicsociety.com. Deux paires de billets vous attendent. Priorité aux nouveaux membres de la radio. popourri@cut.fm. Bonne chance.
Encyclique et laïque, laïque, c'est que certains excités ont décidé d'exciser la cité de sa laïcité. Mais moi, la religion, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas ma tasse de thé. Oui, j'ai la bougie, on va réacter. Quand j'ai ouvert la porte à un témoin de Jéhovah, j'ai compris enfin pourquoi leur revue se nomme Réveillez-vous. Les 7h du matin quand tu sonnes chez vous. Mais laissez-moi patience, moi j'ai pas dans la science. J'en sens la conscience et la désobéissance. Puis j'écarte pas personne avec l'évolution de l'homme. La pomme lisée à Newton et le gramophone de Dyson. Si on s'est débarrassé des satanés souffrant en 1960, c'est pas pour que les bons dieux rirent par en arrière dans la bergerie. Moi dans ma maison, j'aime mieux la raison que nos raisons. Et Marie passe en tant qu'aposta, tient dans ce constat. On s'appelle Israël, Michel ou Rachid, on aime les baguettes, le beurre d'arachide ou le couscous. Ici c'est une seule justice pour tous.
Que tu sois secondaire, que tu sois Maurice, ou que ta grand-mère vienne des îles Maurice, en montant comme de la mère, grand-mère, crévisse, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys. Que tu sois de métis, que tu sois Laurent, ou que t'aies du sang 100% métis, en dépit des marées, de la région du vent, les Québécois s'unissent sous la fleur de lys.
Quand nous sommes
les commissaires, il faudrait qu'on s'efface, qu'on se voile la face, qu'on agisse en majoritaire alors qu'on a la langue à part. Mais sachez mes patriarches que si vous mettez la hache dans ma souche, vous allez frapper haineux. Je suis pas pur, l'aime encore moins haineux, mais à force d'avoir été lacéré, mon écorce s'est écorchée. Puis j'irai pas la serrer pour plaire à la presse et pas que ceux qui nous pensent à capable. Franchement, est-ce qu'on est fiers d'être franco ou si on est 6 millions de tax similés, de fucking prog assimilés, mais si on reste assis pendant qu'on se liquéfie, pourquoi ceux qui viennent ici nous diraient s'il vous plaît merci. Bienvenue à tous les nouveaux venus, utilisez la place en masse pour rassembler toutes les races. Certes, on fait pas d'omelette sans casser deux, mais on fera pas le Québec en se passant de.